Radio Okapi. Le journal présenté par Belinda Bossouma.
Les églises de la RDC appelées à jouer un rôle important pour guérir la justice qualifiée de malade, notamment dans la sensibilisation de leurs fidèles aux bonnes pratiques. Appel lancé par l'archevêque Dodo Kamba, ce leader religieux exposé ainsi hier aux travaux des États généraux de la justice. Difficulté de fonctionnement pour le centre de santé de Bogor en Ituri. Récemment inauguré par les autorités de la province, il ne dispose cependant pas de matériel nécessaire ni de moyens logistiques pour une meilleure prise en charge des malades. Ses responsables lancent un SOS au gouvernement et à ses partenaires. Et puis, l'invité de ce matin, Barthélémy Bato, coordonnateur du PNUD pour la zone Est, il nous parle des travaux d'actualisation du plan provincial de développement du Maniema exercice 2024-2028, travaux tenus récemment et appuyés par le PNUD. À tous et à toutes, bonjour. États généraux de la justice, les hommes de Dieu doivent servir d'exemple de l'application de la justice en évitant notamment leur instrumentalisation par qui que ce soit. Cette recommandation est de l'archevêque Dodo Kamba qui a exposé hier lundi sur la thématique « L'apport de l'Église dans la pratique de la justice dans la nation ». Selon ce leader religieux, les églises sont appelées à jouer un rôle important pour guérir la justice congolaise qualifiée de malade, notamment dans la sensibilisation de leurs fidèles aux bonnes pratiques. On écoute l'archevêque Dodo Kamba au micro de Grâce Amzati.
Nous avons pensé qu'il faudrait appliquer le civisme dans nos enseignements des cultes, question d'apprendre aux fidèles le bien fondé de servir la patrie en tenant compte de devoirs, de droits et la liberté des citoyens. Utiliser notre influence et leadership pour décourager la pratique de la méchanceté et de la rébellion à tous les niveaux dans notre pays. Jouer pleinement notre rôle de pontife en réglant avec amour les conflits tribalistes et interethniques pour assurer à notre peuple l'harmonie et le bien-être de vivre ensemble. C'est question ici de dénoncer les auteurs des crimes économiques et sociaux au nom de la vérité et de la justice quand il s'agirait même de nos partenaires les plus privilégiés dans nos communautés. Car deux fois, les détourneurs de biens publics se cachent dans nos églises, dans nos paroisses, dans nos communautés, comme de vrais partenaires.
Par ailleurs, droit d'auteur et protection personnelle de l'artiste congolais, pour quelle réforme? C'est aussi l'une des thématiques débattues hier lundi aux États généraux de la justice à Kinshasa. Le principal intervenant à ce sujet, le pasteur Moïse Mbillé, musicien gospel et responsable de l'église Cité Bethel, propose au gouvernement, entre autres, de valoriser les artistes, c'est-à-dire ces derniers doivent vivre de leur art. Car, dit-il, les musiciens populaires vivent du phénomène Libanga, entendez faire les éloges des individus dans leurs chansons et au ministère de la Justice de suivre à la loupe les textes qui régissent ce secteur. Compte rendu de Grâce Amzati.
Moïse Mbillé s'interroge, je le cite, « Les peintres, les dessinateurs ou même les musiciens gospel qui ne citent que Dieu dans leurs chansons, comment vont-ils s'en sortir pendant que c'est le phénomène Libanga qui est en vogue ?» Fin des citations. Il propose ainsi à l'État congolais de veiller sur la gestion active de l'unique société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins Sokoda. Ceci permettra, selon lui, d'installer un climat de paix autour des gestionnaires, connaître les besoins réels des artistes et connaître les besoins de cette société. Aussi, d'imposer la collaboration entre les sociétés étatiques et la Sokoda pour maximiser les moyens de subvention. Il propose également la création et la liberté pour les artistes de choisir d'autres sociétés de droits d'auteur afin de promouvoir la clarté et baisser la tension entre les artistes et leurs dirigeants. Une autre proposition est celle de former les artistes sur la gestion de leur carrière. Moïse Mbillé termine son exposé en mettant la salle en ébullition lorsqu'il remercie le gouvernement pour l'existence d'un monument qui reconnaît les artistes, à savoir la place des artistes à Victoire. Mais à une seule condition, il faut mourir, ironise-t-il.
« Direction la province de l'Ituri, le centre de santé de Bogoro. Nous sommes à 25 km de Bunia, ne dispose pas de matériel nécessaire ni d'autres moyens logistiques pour une meilleure prise en charge des patients. Et pourtant, elle était récemment inaugurée par les autorités de la province dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires financé par le gouvernement central. Les responsables de cette structure sanitaire sollicitent l'appui du gouvernement et ses partenaires. Le point avec Jean-Claude Loki.
C'est un bâtiment flamboyant qui dispose d'une maternité, d'un bloc opératoire, d'une salle d'accouchement, d'un laboratoire ainsi que de salles d'internement de malades. Mais les centres de santé ne disposent pas de matériel de laboratoire ni d'équipement nécessaire pour diriger des interventions chirurgicales. Des malades sont obligés parfois de partager un même matelas ramené de la maison qu'ils placent à même le sol. Difficile d'assister des femmes enceintes pour cause. Cette formation médicale ne dispose pas d'appareil d'échographie. David Mugisa, l'infirmier titulaire, avoue que la plupart des malades préfèrent se faire soigner dans d'autres structures plus équipées, d'où son appel au gouvernement.
Si vous voyez les bâtiments, en tout cas, on a bien construit. Si vous entrez maintenant à l'intérieur, nous n'avons pas de matériel. Actuellement, nous recevons des malades qui viennent hors aire de santé. Alors, s'ils trouvent qu'ils n'ont pas de matériel, en tout cas, ce n'est pas bon. Comme maintenant, on a une structure de référence, centre de santé de référence, je demande au gouvernement de nous donner du matériel, que les malades viennent se soigner en disant que nous, voilà, là, il y a quand même une bonne prise en charge.
Sinon, que cette structure sanitaire reçoit en moyenne plus de 200 malades par mois et dessert une population estimée à 5000 habitants. De retour de Bogoro, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Cap.
Ici, c'est la salle de soins.
C'est la salle de soins.
Oui. Entre-temps, dans la province du Tanganyika, les travaux de PEDEL 145 territoires évoluent normalement. Propos du représentant résident du PNUD en RDC. C'était hier à Kalemie au cours de la conférence de presse qu'il a animée conjointement avec le vice-premier ministre du plan. Les deux intervenants ont fait un état des lieux du PEDEL 145 territoires dans le Tanganyika. Damien Mama, représentant résident du PNUD, note tout de même quelques difficultés liées au mauvais état des routes. Il le dit à Paul Munanga.
Dans toute la province, on a déjà 5 écoles qui sont utilisées par les enfants et nous avons 24 autres infrastructures qui sont en finition et le bâtiment administratif de Kabimba, les deux écoles ainsi que le centre de santé de Mitoa font partie. Donc il y a du travail qui est en train d'être fait. Dans la province du Tanganyika, nous avions prévu 91 infrastructures totales et à ce jour, il y a encore 14 pour lesquelles on n'avait pas encore signé les contrats à cause des questions de décaissement qui viennent d'être réglées. Donc en fait, on doit pouvoir signer les contrats pour les 14 pour que dans toutes les localités où c'est prévu, on puisse avoir effectivement les travaux démarrés et finis. Pour ce qui concerne les territoires de Manono, Kongolo et Kabalo en particulier, les travaux sont en cours, mais pas au même rythme que les autres territoires. Et cela s'explique, vous savez, plus les territoires ont des problèmes d'accessibilité, plus les travaux sont lents. Vous savez, par exemple, que Manono a été coupé de l'ensemble de la province pendant au moins 5 mois récemment. On ne pouvait pas y aller.
Rendons-nous au Congo central. Le gouverneur Grace Nkwanga Bilolo a présenté le bilan des 100 premiers jours de son mandat, bilan qu'il juge lui-même positif compte tenu des actions réalisées sur l'ensemble de la province. À l'issue d'une conférence de presse animée pour la circonstance, son conseiller en communication a affirmé dans son adresse que l'absence criante de l'autorité de l'État dans certaines entités fait partie des contraintes auxquelles la province fait face pour relever les défis d'ordre sécuritaire. Selon Martin Solo, cette situation est en train d'être améliorée à travers les activités et stratégies que le gouverneur de province a mis en place depuis son avènement. Nana Plurich Mambou.
Sur les plans sécuritaires, Martin Solo, conseiller en communication du gouverneur des provinces, a souligné que l'arrivée du gouverneur Grace Bilolo a apporté une nette stabilité dans les deux villes ainsi que dans les grandes agglomérations de la province. Quelques cas isolés d'insécurité s'observent plus dans les ex-cités comme Kimpese, Lukala, Kinsamvuete et Sioni à Lukula. Pour s'assurer que tout se passe bien, le chef du gouvernement provincial a mis en place plusieurs stratégies. Martin Solo.
Le chef du gouvernement provincial tient régulièrement des conseils provinciaux de sécurité. Les appuis financiers et matériels sont mis à la disposition des services de sécurité pour renforcer leurs capacités. Le gouvernement provincial procède à l'organisation régulière des audiences foraines dites pédagogiques en vue de juger et éventuellement condamner tous les auteurs de crimes.
Signalons que plusieurs actions de grande envergure ont été menées durant les 100 premiers jours du gouverneur Grace Nkwanga Bilolo. C'est notamment la construction de 12 240 mètres carrés de routes en béton armé à travers la province et la dotation de 10 motos dans les territoires de Songololo pour renforcer la sécurité, précise son conseiller en communication. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, interdiction d'interpeller les conducteurs des véhicules sur les artères principales de la ville par la police de circulation routière. Ceci est contenu dans un communiqué du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Ces mesures du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba visent à lutter contre la tracasserie dite policière. Aucun véhicule portant mention police ne doit plus emporter les véhicules des particuliers pour les amener à la fourrière, sauf en cas de panne. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba appelle tous les conducteurs qui se retrouveraient victimes de saisir directement ces services, indique le communiqué du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Rendons-nous au Nord Kivu. Lancement dimanche dernier de l'initiative communautaire Cantine Unie à Cantine, une localité du groupement de Bassoa-Madiwe située à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Beni. Cette initiative qui regroupe environ 200 jeunes de diverses affiliations et est financée par des contributions collectives de ses membres. Elle vise à promouvoir le développement communautaire à travers des actions locales concrètes. Moïse Mouindo, responsable de l'initiative, en explique le fonctionnement. Il est joint par Marc Marofimbo.
Nous appelons la communauté d'appuyer cette initiative locale de développement. Nous venons déjà de réaliser le premier projet local avec l'aménagement de la source d'eau potable au quartier Mendeleo. Main dans la main, nous allons réaliser plusieurs autres projets. Mon message est unique. Le milieu nous appartient. Personne ne viendra de loin pour venir nous aider à aménager notre milieu. Ils sont nous comme un seul homme. Nos idées, nos actions, mises ensemble pour le développement de la communauté. Nous avons beaucoup de projets communautaires à réaliser. Que les jeunes du quartier Mendeleo nous rejoignent. Nous n'avons pas un autre financement à part les contributions hebdomadaires de 500 francs congolais de chaque dimanche. Beaucoup de cas sociaux ont été secourus par ce fonds collectif de 500 francs congolais. Et là, comme les travaux de réhabilitation de notre source sont achevés, nous relançons le projet de construction des petits ponts pour relier les quartiers de notre localité de Cantine.
Actualité internationale. Après plusieurs tentatives infructueuses au scrutin présidentiel au Kenya, Raila Odinga semble avoir mis une croix sur la fonction suprême dans son pays. Le vétéran de la politique au Kenya vise la présidence de la Commission de l'Union africaine. Il est déjà en pleine campagne alors que les pays membres doivent élire le successeur de Moussa Faki Mahamat en février 2025. À 80 ans, le natif de Maseno va donc s'élancer dans ce qui semble être son dernier combat politique. En République centrafricaine, la restructuration du secteur pétrolier est toujours à la peine. Les tensions à la pompe et les prix parmi les plus élevés au monde pèsent sur la République centrafricaine. L'un des principaux acteurs du secteur, Total, a quitté le territoire en 2022. Depuis, le secteur peine à se restructurer et ce, au point d'affecter différents domaines de l'économie, allant du coût de la vie aux finances publiques en passant par le bon fonctionnement des entreprises.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons Barthélémy Bato, coordonnateur du programme des Nations Unies pour le développement PNUD pour la zone Est. C'est dans le cadre du programme intégré d'appui à la décentralisation, gouvernance locale et planification de développement. Il nous parle des travaux d'actualisation du plan provincial de développement du Maniema pour l'exercice 2024-2028, travaux qui venaient de se clôturer à Kindu et qui ont connu l'appui technique et financier du PNUD. Barthélémy Bato répond aux questions de Florence Kizalunga.
Monsieur Barthélémy Bato, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi PNID décide d'accompagner la province du Maniema dans l'actualisation de son plan de développement 2024-2028?
Oui, tout d'abord, ce qu'il faut signaler est que le PNID est le partenaire du gouvernement en matière de développement. Le PNID a reçu la demande officielle de son excellence, monsieur le gouverneur de la province, qui a souhaité avoir un accompagnement pour l'actualisation de son plan de développement provincial 2024-2028. Pourquoi Pourquoi? Parce que, pour rappel, le PNUD avait également accompagné la province du Maniema dans l'élaboration du plan de développement provincial 2019-2023. Et donc, c'était logique que le gouverneur des provinces recourt encore à l'expertise du PNUD pour l'aider techniquement et financièrement pour le processus d'actualisation de ce plan de développement provincial 2024-2028.
Pourquoi est-il important d'actualiser un plan de développement?
Oui, un plan de développement provincial, c'est un outil à la fois de plaidoyer, mais également un outil de gouvernance. Aussitôt qu'il a pris fonction pour une période de 5 ans, le gouvernement provincial devait avoir un document stratégique qui reprend tous les besoins prioritaires de sa population. Pour rappel, le plan de développement provincial est élaboré de manière participative, et donc le gouverneur de province avait souhaité avoir cet outil qui pourra l'aider avoir tous les besoins prioritaires exprimés par la population. Et donc, ça sera un outil de gouvernance, ce document stratégique qui prend en compte toutes les orientations stratégiques et sa politique en matière de développement pour les 5 prochaines années.
Dans le cas d'espèce, qu'est-ce qui a été enlevé ou bien corrigé ou bien ajouté à ce que vous avez fait?
Pas que l'ancien plan a vieilli. La planification en soi, elle est cyclique parce qu'on élabore un plan pour une période de 5 ans. 5 ans après, il faut se mettre encore en cause et questionner les priorités qui sont contenues dans les plans, parce que 5 ans après, c'est un moment qu'il y a certaines actions qui ont été réalisées, il y a d'autres actions qui sont en cours et il y a de nouveaux besoins qui se sont créés. Et donc, c'est tout cela et le travail qui a été fait par les experts, les parties prenantes pendant les 3 semaines d'activité. Et il a fallu donc essayer de questionner pilier par pilier toutes les priorités qui étaient considérées. Il y a de cela 5 cas, est-ce que ces priorités sont encore d'actualité ou pas? Et donc, c'est ce travail-là d'actualisation qui a été fait. Et ça a fait aujourd'hui que, certainement, comme vous l'avez remarqué, il y a beaucoup d'éléments nouveaux qui sont venus.
C'est notamment?
Oui, notamment, il y a par exemple dans les secteurs d'infrastructure, il y a beaucoup de routes aujourd'hui qui ont été identifiées, qu'il faut encore réhabiliter, qu'il faut aujourd'hui reconstruire. Et beaucoup d'autres priorités, quoi. Donc, dans tous les secteurs, pratiquement, il y a certaines activités qui ont été réalisées et d'autres qu'il fallait actualiser. Et pour rappel, le gouvernement provincial, avant même cet exercice, il avait conduit un atelier d'évaluation du plan de développement provincial 2019-2023. Cette évaluation a montré que beaucoup de priorités d'action qui étaient dans ce plan-là n'ont pas été réalisées, à hauteur de moins de 20%. Voilà que ça valait la peine, c'est qu'il y ait une actualisation. Et c'est ce que les parties prenantes ont fait pendant les 3 semaines d'activité.
En ce qui concerne le budget, est-ce qu'on peut avoir une idée pour ces nouveaux plans?
Ah oui, la budgétisation, là aussi, il y a une évolution parce que l'ancien plan qui était évalué était peut-être trop ambitieux parce que le PAPA, soit le plan d'action prioritaire, était évalué à peu près 900 millions de dollars. Maintenant là, je viens de voir ce qui est fait. La budgétisation paraît réaliste parce que le plan d'action prioritaire pour les 5 ans est budgétisé à hauteur de 200 millions de dollars. Donc c'est presque un quart du montant qui était dans l'ancien PAPA. Et je trouve que quand même c'est réaliste compte tenu des réalités, des niveaux peut-être des mobilisations de ressources actuelles au niveau provincial.
Aujourd'hui, ce n'est que la validation technique. Il y a encore d'autres processus qui vont suivre. Est-ce que PNUD sera-t-il aux côtés du gouvernement provincial pour continuer à appuyer ces travaux?
Cela ne sera pas la fin. C'est juste un début. Parce que c'est bien d'élaborer un plan, mais le reste du travail reste la mise en œuvre de ce plan de développement provincial. Et le PNUD, en tant que partenaire du gouvernement provincial, sera toujours aux côtés du gouvernement provincial de Maniema pour l'accompagner dans des processus de la mise en œuvre, du suivi, de l'exécution de ce plan de développement provincial.
Monsieur Barthélémy Bato, je vous remercie.
Je vous en prie, madame.
Le coordonnateur du PNUD pour la zone Est répondait aux questions de Florence Kizalunga. Par ici prend fin ce journal supervisé par Pele Kipela Mondo. Alain Goy à la mise en onde. Merci de rester branché sur la fréquence de la paix en compagnie de Baya Tchamala.